Radio Prague, les informations. Bonjour, la République tchèque est opposée à la réforme souhaitée par la Commission européenne pour l'accueil des demandeurs d'asile dans l'Union européenne. Le président Zeman a assuré son homologue monténégrin du soutien de la République tchèque au Monténégro dans sa volonté d'intégrer l'OTAN et l'Union européenne. Et puis enfin, culture et musique, c'est une grande première. Charles Aznavour donne un concert à Prague pour la première fois de sa carrière ce mercredi. Comme annoncé en titre, la République tchèque est opposée à toute réforme du système de répartition entre pays membres des demandeurs d'asile, comme le souhaite la Commission européenne. Celle-ci a dévoilé ce mercredi ses propositions pour réformer le règlement dit de Dublin, un règlement qui définit les règles de répartition des demandeurs d'asile dans l'Union européenne. Sur son compte Twitter, le Premier ministre Bohuslav Sobotka fait savoir que la République tchèque n'était pas favorable aux réformes envisagées. La politique migratoire doit rester sous le contrôle des différents États membres, a expliqué le chef du gouvernement. Depuis le début, le gouvernement tchèque est opposé au système de répartition par quota des migrants parmi les pays membres. Selon le règlement appliqué jusqu'à présent, c'est le pays de première entrée d'un migrant dans l'Union européenne, essentiellement donc la Grèce et l'Italie, qui doit en premier lieu instruire sa demande d'asile. À ce règlement, à la Commission européenne envisage d'adjoindre un mécanisme de solidarité temporaire en cas de forte pression migratoire. Les demandeurs d'asile seraient alors répartis partout dans l'Union européenne, une éventualité que refuse donc la République tchèque. Miloš Zeman a reçu le président du Monténégro, c'était au château de Prague, ce mercredi, avec Filip Vujanović. Le chef de l'État tchèque a discuté de la prochaine entrée du Monténégro à l'OTAN et de son intérêt pour une adhésion à l'Union européenne. L'achèvement d'une centrale thermique située dans le nord du Monténégro, une centrale dont les travaux devraient être réalisés par la société Škoda Praha, a également été évoqué, ainsi que d'autres projets dans les domaines industriels et des infrastructures de transport. Par ailleurs, quelques 50 000 touristes tchèques visitent chaque année le Monténégro, comme dans le cas des autres pays des Balkans et notamment de la Serbie et de la Macédoine, dont les négociations avec Bruxelles sont les plus avancées. La République tchèque soutient pleinement les candidatures monténégrines pour devenir donc membre de l'Alliance Atlantique et de l'Union européenne. Fait divers, la police de Prague a demandé à la police française de coopérer dans la recherche de deux jeunes hommes soupçonnés d'être les auteurs de graffitis sur le pont Charles en février dernier. Des inscriptions réalisées à la bombe aérosol avaient été découvertes sur les garde-corps du monument le plus célèbre de la capitale tchèque. Selon l'enquête menée et les informations communiquées par la police de Prague, les auteurs sont probablement deux touristes parlant français et vivant en France. Ils sont soupçonnés du délit de dégradation de biens d'autrui. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un monument national, ils risquent jusqu'à 3 ans de prison s'ils sont reconnus coupables. On passe à la culture et d'abord à la littérature. C'est l'écrivaine et critique littéraire Daniela Hodrova qui a remporté le prix Magnesa Litera du meilleur livre de l'année 2015 en République tchèque avec son œuvre intitulée Točite věty, autrement dit les phrases tournantes en français. Les prix ont été remis lors d'une cérémonie à Prague mardi soir. Âgée de 70 ans, Daniela Hodrova écrit des romans qualifiés de stylisés, vaguement classés dans le post-modernisme, qui ont été traduits dans de nombreuses langues, y compris le français. Et puis un mot de musique également, c'est une grande première, on vous le disait, Charles Aznavour donne un concert en République tchèque et ce pour la première fois de sa carrière. À 91 ans, le chanteur français se produit à Prague au Palais des Congrès ce mercredi soir et ce dans le cadre de sa tournée mondiale d'adieu. Rappelons qu'en 1978, Charles Aznavour avait déjà donné un concert en Tchécoslovaquie, mais c'était alors à Bratislava qui est devenue depuis la capitale de la Slovaquie, vous le savez. Charles Aznavour aurait dû chanter également à Prague en 1969, mais son concert avait été annulé, et ce à sa demande, suite à la mort de Jan Palach quelques jours plus tôt. On termine ce bulletin avec un mot de météo. C'est un temps très variable qui continue de régner sur l'ensemble du territoire ce jeudi. Jeudi qui est le jour de la fête des Hergemann et Hermina. Quelques averses sont annoncées dans une grande moitié sud du pays. Quant aux températures, elles sont stables puisqu'elles varient entre 11 degrés et 17 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel est le plaisir de vous présenter et Guillaume Narguet, merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Très bonne écoute. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à tous mes très chers amis, quel plaisir de vous retrouver à l'écoute du programme quotidien de Radio Prague, une émission consacrée, vous le savez bien, à l'actualité tchèque. Remercions pour commencer tout ensemble Guillaume Narguet pour la qualité de son bulletin d'information. Au programme ce mercredi, on parle tout d'abord de la visite du ministre des Affaires étrangères tchèque Lubomír Zaoralek en Israël et en Palestine. Il sera ensuite question d'un projet archéologique tchèque pour préserver le riche patrimoine archéologique de la ville de Mossoul, actuellement aux mains de l'organisation de l'État islamique au nord de l'Irak. Enfin, c'est mercredi et donc évidemment ravioli en plus de notre rubrique historique qui est consacrée aujourd'hui à une figure majeure des relations franco-tchèques, j'ai nommé Ernest Denis. Bonne écoute à tous et à toutes. Le chef de la diplomatie tchèque, Lubomír Zaoralek, a achevé ce mardi soir une visite de 3 jours en Israël et dans les territoires palestiniens. Le ministre tchèque des Affaires étrangères a été accueilli notamment par le président israélien Reuven Rivlin, par le premier ministre Benjamin Netanyahou ou encore par son homologue palestinien Riyad al-Maliki. La coopération économique et les questions de sécurité étaient au centre de la plupart de ces rencontres, comme l'explique Ashbeta Ticha. À l'heure actuelle, vu la situation en Europe et les attaques tragiques à Bruxelles et à Paris, il est évident que l'on a besoin de s'instruire des expériences que possède Israël. Israël est un partenaire précieux dans ce domaine, et pas seulement pour la République tchèque, mais également pour l'OTAN, car il dispose de toutes sortes d'informations et de savoir-faire dans lesquelles nous aurons besoin de nous perfectionner. Ve kterých my budeme
potřebovat významně přidat. C'est ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie tchèque après sa rencontre lundi avec le président israélien Reuven Rivlin, tout en indiquant que la République tchèque s'apprête à envoyer dans le pays un diplomate spécialiste de la sécurité cybernétique, un domaine dans lequel, dit Lubomír Zaoralek, l'Israël a atteint un niveau mondial. Avec le chef de l'État hébreu, M. Zaoralek a discuté entre autres d'une réunion commune des gouvernements tchèques et israéliennes qui se tiendra à Prague en mai prochain, mais aussi de la situation au Proche-Orient, de l'évolution du conflit israélo-palestinien ou du futur des relations entre Israël et la République tchèque. Les deux hommes se sont félicités des liens très étroits qui existent entre les deux pays, et cela même si le ministre a présenté certaines critiques vis-à-vis de la politique de colonisation d'Israël avec la construction de villages israéliens dans la zone C, un territoire palestinien qui reste sous le contrôle de l'armée israélienne, et avec la démolition dans la région de certains bâtiments.
Nous n'avons pas été satisfaits de la décision du gouvernement relative à la démolition de certains bâtiments dans la zone C, à l'est de Jérusalem, où environ 200 constructions ont été démolies, car un nombre important de ces bâtiments ont été financés par les fonds européens, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'infrastructures dans lesquelles nous avons investi. Budova těch objektů byla stavěna z fondů
Evropské unie, to znamená, byly to prostředky, do kterých jsme investovali. Parmi les principaux sujets traités figurait également l'approfondissement de la coopération économique entre les deux pays avec la volonté de l'armée tchèque d'acheter des radars israéliens. Les entreprises tchèques devraient pour leur part investir dans plusieurs projets sur le territoire israélien, dont la modernisation des routes ferroviaires. Lubomír Zaoralek.
My máme zájem o vybavení tady železničními Nous voulons leur fournir des wagons et en général, nous voulons construire en Israël des voies ferroviaires. Ensuite, nous sommes intéressés par exemple par le domaine de l'énergie, mais nous avons parlé également du tourisme, notamment en raison du nombre croissant de touristes venant à Prague.
Bavili jsme se o tom, že ale třeba roste i počet turistů, těch, kteří přicházejí také z Izraele do Prahy.
Avant de s'envoler pour Ramallah, afin d'y rencontrer son homologue palestinien Riyad al-Maliki, qui a apprécié notamment la position de la République tchèque dans le contexte du conflit israélo-palestinien, le ministre tchèque des Affaires étrangères s'est entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il était question notamment d'une possible coopération dans le secteur de la santé et plus précisément de nouvelles formations destinées aux médecins tchèques ainsi que d'une aide dans le domaine de la culture du cannabis médical. Mardi, en Palestine, Lubomír Zaurálek a indiqué que la République tchèque entend continuer à aider la croissance économique dans la région, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures ou des services sociaux. Il a ainsi visité la centrale solaire à Tubas, un projet lancé dans le cadre d'une aide publique au développement et financé par le gouvernement tchèque. Selon Monsieur le ministre, ce projet d'aide humanitaire pourrait prochainement se transformer en une coopération commerciale entre la Palestine et la République tchèque en raison de son potentiel économique. Dans la deuxième phase du soutien à la Palestine, la Tchéquie devrait aider à électrifier à l'aide de l'énergie solaire 9 bâtiments publics dans la région, dont surtout des écoles ou des hôpitaux. À la fin de sa visite de 3 jours, M. Zaurálek a également lancé un projet d'aide aux femmes qui doivent faire face aux problèmes tels que la violence à domicile et il a participé à l'ouverture d'un salon automobile Škoda Auto Anna Plus.
Une équipe d'archéologues tchèques travaille à la préservation du patrimoine monumental de la ville de Mossoul, grande cité du nord de l'Irak, tombée aux mains de l'organisation de l'État islamique en juin 2014. Une occupation qui s'est accompagnée de son lot de destructions, motivant le lancement de ce projet en ligne intitulé « Monument de Mossoul en danger » et conduit sous le patronage de l'Institut oriental de l'Académie des sciences de République tchèque. Avec les destructions des Bouddhas de Bamiyan, des mausolées de Tombouctou ou du temple de Baal à Palmyre, les djihadistes de tout poil sont connus pour ne pas vraiment goûter au patrimoine architectural et culturel des périodes préislamiques, l'associant à des reliquats et à des icônes d'inspiration païenne. Le saccage des œuvres du musée de Mossoul, diffusé dans une vidéo de l'État islamique en février 2015, est un autre exemple de cette attitude peu avenante qui avait trouvé un grand écho médiatique. Ces dévastations, qui sont en grande partie le fait de la guerre qui ravage le Proche-Orient, constituent des pertes inestimables pour les historiens, avec des sites endommagés qui n'ont parfois jamais fait l'objet de fouilles. Une poignée d'archéologue tchèque a donc décidé de prendre les devants en s'appuyant dans un premier temps sur des relevés satellites de la ville de Mossoul pour constituer une cartographie des monuments endommagés ou détruits. Parmi ces quelques chercheurs, Karel Novacek, historien de l'architecture à l'université Palatsky à Olomouc, qui fournissait quelques explications peu après le lancement de l'opération.
Il y a deux objectifs de base. D'une part, nous voulons créer la liste la plus détaillée possible du patrimoine architectural détruit de la ville de Mossoul et rassembler des informations sur tous ces édifices afin qu'il soit possible d'en évaluer la valeur pour les spécialistes, même rétroactivement. Beaucoup de ces bâtiments n'ont en effet pas fait l'objet de recherches, même basiques, d'un point de vue de l'histoire, des constructions ou d'un point de vue archéologique. Le deuxième objectif est de fournir une aide pour une éventuelle tentative de sauvegarde de ces monuments détruits ou par leur reconstruction.
Konzervace těch zničených památek nebo jejich rekonstrukci.
Avec 1,5 million d'habitants, Mossoul est la ville la plus importante de la région nord-irakienne. Construite sur les bords du Tigre, elle a été fondée sur le site de l'antique cité de Ninive, qui fut un temps la capitale de l'Empire assyrien. À travers l'histoire, Mossoul a constitué un point de rencontre significatif entre différentes civilisations, cultures et religions, des dominations et influences successives qui expliquent ce riche patrimoine architectural aujourd'hui menacé. Seulement voilà, la guerre est
ses corollaires, destruction et pillage, ont fait leur ouvrage et selon les estimations de Karel Novacek, 38 monuments auraient déjà été détruits et certains de façon irréversible. C'est ce que permet de constater la carte interactive élaborée dans le cadre du projet, une partie technique dont Lenka Starkova assure le développement.
www.monumentsofmosul.com.
N'importe qui peut naviguer sur le site à l'adresse www.monumentsofmosul.com. On y trouve une carte interactive qui fonctionne de telle sorte que chacun puisse l'utiliser et s'orienter sur le site du centre historique de Mossoul. Les carrés rouges sur la carte sont des polygones délimités correspondant à des édifices ayant déjà été détruits par le passé. En cliquant, on a accès à des informations détaillées.
La carte interactive correspond à la partie visible et peut-être la plus emblématique du projet, mais pas forcément à l'aspect le plus fondamental si l'on en croit Karel Novacek. Il s'agit en effet de collecter le maximum de documents relatifs à ces monuments en danger, par exemple des photos personnelles. À cette fin, tout contributeur peut également utiliser les réseaux sociaux et en particulier un groupe dédié sur Facebook pour enrichir la base de données.
My jsme s tím velice spokojeni, protože se pomaloučku daří oslabovat nedůvěru.
C'est quelque chose dont nous sommes très satisfaits, car petit à petit, nous parvenons à affaiblir les doutes de nos collègues irakiens qui commencent à contribuer à cette page et à ce groupe. Nous commençons à communiquer avec une communauté bien plus large de spécialistes et de personnes intéressées qui, de plus en plus, partagent leurs informations, leurs photographies. Des photographies ne sont envoyées qu'exceptionnellement, car évidemment, le fait de photographier des monuments ou d'apporter de la documentation sur les réseaux sociaux est quelque chose qui peut être très dangereux.
L'équipe du projet ne prévoit pas à court terme de réaliser la visite qu'elle voudrait pourtant effectuer à Mossoul. C'est que la situation sécuritaire risque d'y être précaire encore un bon moment. Fin mars, les troupes de l'armée irakienne ont entamé une offensive pour tenter de reprendre la ville. Historien français spécialiste du monde slave, Ernest Denis a œuvré toute sa vie au service de la cause tchèque jusqu'à jouer un rôle primordial dans la création de la Tchécoslovaquie au lendemain de la Première Guerre mondiale. Fondateur, il y a 100 ans, de la revue La Nation tchèque, puis 5 ans plus tard de l'Institut français de Prague, qui porta un temps son nom, ce tchèque d'origine non tchèque a contribué à créer des liens forts entre la France et la Bohème, contrée où il n'a pourtant que très peu vécu. Cette rubrique Histoire est l'œuvre de Tony Le Pennec et une rediffusion datant du 25 mars 2015.
Chapitre de l'histoire.
L'histoire commune entre Ernest Denis et la Bohème débute à la fin de l'année 1870. Cette année-là, en effet, le jeune normalien de 21 ans, originaire de Nîmes et déjà républicain convaincu, défend Paris assiégé par l'armée prussienne. Arrive alors un soutien quelque peu inattendu. Le 8 décembre, les députés de la Diète de Bohême, parlement régional alors partie intégrante de l'Empire austro-hongrois, signent une déclaration commune destinée à l'empereur François-Joseph pour lui exprimer leur indignation après l'annexion de l'Alsace-Lorraine par la Prusse. Professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne et spécialiste de l'Europe centrale, Alain Soubigou explique le caractère exceptionnel pour l'époque de ce mémorandum.
À l'époque, les députés à la Diète de Bohême d'une part, au Reichsrat à Vienne d'autre part, étaient élus selon un système extrêmement sophistiqué qu'on appelait les curies et qui en gros mécaniquement garantissait à la minorité germanophone de Prague et de la Bohême une majorité de députés. Bon, donc les quelques députés tchèques qui s'étaient solidarisés avec la France défaite étaient extrêmement courageux.
Selon les mots de son ami Raoul Allier, Ernest Denis est alors ébranlé par ce texte parlant de la noble et glorieuse France, d'une nation illustre et héroïque et de l'injustice qu'elle subirait. Deux ans plus tard, le jeune agrégé d'histoire profite d'une bourse d'État français pour partir à Prague écrire sa thèse. Si le souvenir du mémorandum du 8 décembre 1870 est encore présent chez Ernest Denis et a certainement influencé sa décision, Dubravka Olchakova, historienne tchèque et auteure d'un article intitulé « Le culte d'Ernest Denis dans la société tchèque au XIXe et XXe siècle », paru dans l'ouvrage collectif « Les lieux de mémoire en Europe centrale », propose une autre hypothèse pour expliquer ce choix.
D'après moi, c'était au début, c'était un peu calculé, parce qu'il a vraiment, quand il a demandé la bourse pour aller en Autriche-Hongrie, il a cherché un pays près de l'Allemagne, mais où on parle l'allemand, même si Ernst Denis n'a pas parlé allemand, ou bien pas suffisamment, il ne parlait pas du tout tchèque, alors il a reçu une bourse pour aller à Prague sans vraiment parler tchèque. Il a cherché un lieu qui ne se trouve pas à Vienne, mais pas à Vienne. Alors c'était vraiment, il était aussi jeune, alors il a cherché vraiment un lieu pour faire ses études, pour apprendre l'allemand, et pour peut-être vraiment profiter un peu pour connaître l'Allemagne et la question allemande, mais de points de vue différents.
L'intérêt d'Ernest Denis pour la Bohème et son désir d'aller étudier 3 ans à Prague à partir de 1872 prend donc sa source quelque part entre l'élan romantique suscité par le mémorandum des députés de Bohème en 1870 et un intérêt plus pragmatique pour l'Allemagne, pays victorieux de la guerre de 1871. À Prague, Ernest Denis découvre Jan Hus, dissident religieux ayant défié l'Église catholique dès le XVe siècle. Fasciné par le personnage, il décide de lui consacrer sa thèse, qui sera soutenue et publiée en 1878 sous le titre « Jan Hus et les Hussistes ». Alain Soubigou voit dans cette attirance pour le théologien tchèque, mort sur le bûcher en 1415, des raisons d'ordre personnel.
L'adéquation entre Ernest Denis et Jan Hus a un autre ressort, c'est que Ernest Denis est né à Nîmes, terre cévenole protestante, et Jan Hus est une espèce de pré-protestant un siècle avant Luther. Et Ernest Denis est très vite séduit, lui, le cévenol protestant, est très vite séduit par le personnage de Jan Hus. Et c'est pour ça qu'il consacre ces 3 années, entre 1712 et 1715, où il séjourne à Prague, à amasser les matériaux sur Jan Hus.
Ernest Denis, après avoir admiré le courage des députés tchèques ayant pris parti pour la France en 1870, découvre donc une sorte d'histoire commune entre la Bohème et sa terre natale, celle de l'insoumission religieuse. Et si ce point commun est remarqué par l'étudiant français, il ne passe pas non plus inaperçu aux yeux des Tchèques, qui se penchent avec intérêt sur la thèse d'Ernest Denis à sa publication. Dubravka Olchakova avance une explication à cet intérêt pour une thèse comportant pourtant d'importantes erreurs d'interprétation.
Ce qu'on a apprécié le plus en ce qui concerne le personnage d'Ernest Denis, c'était tout d'abord qu'il était un Français, c'est-à-dire c'était pas un Allemand, ça c'était exclu, c'était impossible. C'était tout d'abord un Français, c'est-à-dire, entre guillemets, je cite, « l'ennemi de notre ennemi, c'est notre ami ». Et on a cherché des relations quand on a découvert que Ernst Denis a été un protestant. Alors tout d'un coup, on a découvert que ce n'est qu'un protestant en plus français qui peut comprendre l'histoire tchèque.
À partir de là, se tisent vraiment les liens, jamais démentis par la suite, entre l'historien français, fervent républicain et protestant, et la nation tchèque en devenir. Durant la fin du 19e et le début du 20e siècle, il écrit plusieurs ouvrages historiques sur la Bohème, cela plus pertinent que sa thèse sur Jan Hus, et prend position pour l'indépendance tchécoslovaque, notamment dans La Nation tchèque, revue francophone qu'il fonde lui-même en 1915. Ernest Denis prend donc part, avant la création de la Tchécoslovaquie, à ce que Dubravka Olchakova nomme la diplomatie culturelle française, totalement indépendante de la position officielle du Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères soutenant jusqu'au bout le maintien de l'Empire austro-hongrois.
D'après moi, il faut distinguer entre la diplomatie officielle, la diplomatie culturelle. Parce que la diplomatie culturelle, là, vous pouvez réaliser des projets qui ne correspondent pas ou bien qui cherchent une alternative, une voie alternative par rapport à la diplomatie officielle. C'est-à-dire, si des relations entre l'Autriche-Hongrie et la France existaient et se déroulaient très très bien, en ce qui concerne la diplomatie culturelle, ça changeait un peu parce qu'il existait des bourses pour aller dans les États autrichiennes, mais pas exactement à Vienne. Et pourquoi on a lancé ce type de bourse? Parce qu'on a voulu connaître des petites nations qui vivaient en Autriche-Hongrie à cette époque-là. C'est-à-dire pour se faire des alliés.
Dans cette optique, Ernest Denis crée un ensemble de ponts entre la France et la Bohême. En 1919, il fonde l'Institut d'études slaves de la Sorbonne, puis un an plus tard, son jumeau pragois, l'Institut français de Prague, à l'origine avant tout un lieu d'enseignement et qui a un temps porté son nom. Son rôle d'avocat constant de la cause nationale tchèque lui vaut d'être considéré en 1918, à l'indépendance de la Tchécoslovaquie, comme un des pères fondateurs du pays, aux côtés de Masaryk et de Beneš. Son premier et dernier voyage dans la Tchécoslovaquie indépendante, en novembre 1920, donne une assez bonne idée de ce que représentait l'historien nîmois aux yeux des Tchèques. Son train, filant vers Prague, doit marquer une pause d'un quart d'heure en gare de Pilsen, où la foule se presse pour entendre quelques mots du champion étranger de l'indépendance. La délégation gouvernementale qui l'attend à la capitale n'aurait également guère pu être plus fournie avec la présence, malgré un froid polaire, du chancelier, du ministre des Affaires étrangères Edvard Beneš, de ceux de l'éducation nationale et de la culture, ou encore du président de l'Assemblée nationale. Ernest Denis, après avoir vu de ses propres yeux le fruit d'une vie entière d'engagement, voit sa santé se dégrader subitement et doit être amené précipitamment à Paris, où il s'éteint le 5 janvier 1921. Après avoir fait l'objet d'un quasi-culte, pour reprendre l'expression de Dubravka Olchakova, durant l'entre-deux-guerres en Tchécoslovaquie, Ernest Denis est aujourd'hui largement oublié, des hommes politiques comme des écoliers, en République tchèque comme en Slovaquie. Son nom n'évoque pas non plus grand-chose en France, où sa renommée n'avait de toute façon jamais égalé celle connue en Tchécoslovaquie. 6 ans de domination allemande sur la Bohême-Moravie, suivie de 42 ans de socialisme dans le giron de Moscou, ont eu raison de cette figure jugée trop républicaine et trop occidentale, mais l'œuvre de Denis, en particulier son action en faveur du rapprochement franco-tchèque, est encore bien visible aujourd'hui. L'Institut d'études slaves de Paris, installé rue Michelet dans l'ancien domicile parisien d'Ernest Denis, continue de promouvoir la connaissance scientifique des choses slaves, selon les mots de son fondateur, tandis que l'Institut français de Prague poursuit quant à lui la promotion des échanges culturels entre la France et la République tchèque. De même, une poignée de jeunes tchèques viennent chaque année passer 3 ans au lycée Alphonse Daudet de Nîmes, qui dispose par ailleurs d'une section tchèque pour les lycéens français. Cette section tchèque, qui avait été l'objet d'un article de Radio Prague lors des célébrations de son 90e anniversaire, doit tout à Ernest Denis, né dans la capitale gardoise, même si elle n'a officiellement vu le jour que 3 ans après sa mort, comme nous le racontait Madame Janine Barbès, proviseur du lycée Daudet.
Il avait assisté en France à la naissance d'une section qui accueillait des jeunes tchèques qui venaient faire leurs études chez nous. Dans d'autres villes, il y avait la ville de Dijon et la ville de Dijon en 1920. Et il en avait parlé au maire de la ville de Nîmes, dont il était originaire. Et le maire de Nîmes, en 1923, a réussi à faire voter par son conseil municipal la création de bourses d'études qui permettaient à des jeunes tchèques de venir étudier gratuitement pendant 3 ans, les années du lycée, en France. Et c'est sous l'influence d'Ernest Denis que la section tchécoslovaque du lycée Daudet de Nîmes a accueilli ses premiers élèves en 1924, en octobre 1924. Mmh. Mais Ernest Denis n'a pas pu voir cela de lui-même puisqu'il est décédé en 1921.
Si le nom d'Ernest Denis a quasiment disparu des mémoires, une poignée d'étudiants français et tchèques continue donc chaque année de profiter de l'attachement et de l'amour que l'historien français a porté à sa terre d'adoption, la Bohême.
Chapitre de l'histoire.
Voilà, c'est avec cette rediffusion de cette rubrique du chapitre de l'histoire, réalisée par Tony Le Pennec, que s'achève notre émission du jour. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur notre site internet à l'adresse suivante au www.radio.cz/fr ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux ou bien sur Twitter, qui est un réseau social, ou bien sur Facebook, voulais-je dire. À très bientôt, ahoy!